J'ai le plaisir d'être avec Huguette Nadal pour la chronique généalogie du jour. Bonjour Huguette.
Bonjour à tout le monde.
Alors aujourd'hui, pouvez-vous, Huguette, nous expliquer comment Napoléon a financé ses guerres ?
Si vous voulez, Napoléon, quand il a fait la campagne d'Espagne, par exemple, il fallait nourrir tous ses soldats.
Et oui.
Donc, il a imposé des prélèvements, on va dire, forfaitaires dans chaque village.
Et, oui.
Et pour le petit village de Doucha, qui comptait à l'époque, on va dire, 600 personnes, et encore, c'est parce que c'était là où il était le plus habité, on va dire, il a pris des bœufs. Alors, deux bœufs sont partis de Doucha, qui ont été rassemblés à Ribérac. Et ils ont eu un numéro, le numéro 57 et 58 pour la
anecdote,
et qui ont été signalés au propriétaire qu'on lui rendra quand ils reviendront. Sauf qu'ils étaient prévus pour la boucherie, donc ils n'ont pas dû beaucoup revenir. Ils ont dû payer aussi 600 kilos de froment et 400 kilogrammes de légumes. Et puis, après aussi, alors, cela fait que 271 bœufs sont partis en direction de Bergerac de Ribérac.
Oh, c'est beaucoup, oui.
C'est beaucoup.
Mais sur quelle période ?
Pour
les guerres napoléoniennes.
Oui.
D'accord.
La campagne pour le
la guerre d'Espagne. Ah
pour
oui.
La guerre d'Espagne,
d'accord,
la
d'accord.
campagne.
Très bien.
Ils ont emporté aussi 2800 hectolitres, ou c'est-à-dire ça fait 280 kg de froment et d'avoine en direction de la Rochelais.
Oui.
Et ils ont emporté 19 000 kilos de légumes secs, toujours vers la Rochelais. Et tout ça, ça a été dirigé vers le bas de l'Espagne pour nourrir les cèdres.
Voilà. Eh oui.
Alors, en 1820, il y a le dépôt des armes. La guerre est finie, donc il faut déposer ses armes. Et Jean Brouillot, par exemple, qui était conscrit en 1815, qui faisait partie de la garde nationale, a dû rendre son fusil, une baïonnette, un baudrier, voilà. Il y en a un peu partout dans le monde. Alors, en 1846, par exemple, on a Toulajac qui est mort à l'île de la Guadeloupe. Il faisait partie de la première compagnie et du premier régiment d'infanterie de la marine. Il était né à Doucha et bon, voilà. Il y en a un autre qui est mort à l'hôpital de Mascara, en Algérie. Il était chasseur et un autre aussi qui est mort à Constantinople. Un autre qui est décédé à Toulouse, voilà. Alors, on se rend compte qu'il y avait finalement des Français un peu partout. Hein. Il y en a un autre qui est mort à l'hôpital militaire d'Alger. Et l'autre, il était médecin vétérinaire à bord d'un navire. Et il est mort dans la rade de Sainte-Marie, dans les îles Scilly. C'est un district du côté de Cornouailles. Donc, on voit qu'ils ont beaucoup voyagé finalement. Ils ont été dispatchés.
Et comment ça se passe au moment du décès ? Le corps est rapatrié, rendu aux familles ?
Non.
Ils sont enterrés sur place ?
Sur place, oui.
D'accord.
J'ai un exemple frappant. Pour la guerre de 14-18, beaucoup d'hommes sont morts sur les fronts, là-haut. Et il y a d'immenses cimetières militaires.
Et oui, avec des croix blanches.
Oui, c'est quelque chose de très impressionnant. Et j'invite toutes les personnes à aller sur ces sites-là et se rendre compte de l'impact qu'il y a encore sur la population.
Et oui.
Nous y sommes montés, nous, parce que j'ai retrouvé un ancêtre, un grand-oncle à mon mari, qui est mort sur un site. C'était une ferme qui était au sommet d'une colline. Et ils se sont battus pendant plus d'un mois pour gagner cette ferme.
Oula.
Parce que c'était la porte ouverte sur Reims.
Oui.
Donc, il ne fallait pas que Reims soit attaqué. Donc, ils avaient mis une barrière.
Oui.
Et là, ils se sont battus. Il y a eu beaucoup de décès.
Très bien, merci Huguette. Et la prochaine fois, vous nous parlerez des villages disparus pendant la guerre et comment on a honoré leur mémoire. À très bientôt donc.
Liberté FM, c'est votre radio locale.